Vous écoutez, on lit pour vous.
L'économie canadienne fait face à des défis majeurs et les peuples autochtones offrent des solutions. Un texte de Mylon Olila et Hugo Asselin paru le 29 juillet 2025 dans La Conversation. Le Canada est confronté à des difficultés économiques en raison des changements géopolitiques, dont une guerre commerciale avec les États-Unis, son plus proche partenaire économique. Les décideurs politiques cherchent de nouvelles sources durables de développement économique, mais en négligent une qui existe déjà, l'économie autochtone émergente. Elle pourrait stimuler l'économie canadienne de plus de 60 milliards de dollars par an. Toutefois, les peuples autochtones sont encore largement considérés comme un fardeau économique à gérer plutôt que comme une opportunité de croissance. Il est temps de changer les mentalités. Pour cela, le gouvernement fédéral doit supprimer les obstacles économiques injustes et investir dans la réduction des écarts d'emploi et de revenus. Le futur du Canada dépend des peuples autochtones. La croissance économique devrait ralentir au cours des prochaines années dans les pays développés et le Canada aura le PIB le plus faible des 38 pays de l'OCDE d'ici 2060. Avec le ralentissement de la croissance, le niveau de vie baissera et les gouvernements seront confrontés à une pression budgétaire accrue. Ce défi est aggravé par le vieillissement de la population active. Le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus augmente 6 fois plus vite que celui des enfants de 14 ans et moins qui entreront sur le marché du travail dans les années à venir. Cette évolution démographique exerce une pression supplémentaire sur les retraites, le système de santé et l'économie. Mais ces sombres prévisions négligent souvent l'un des avantages comparatifs du Canada, une population autochtone jeune qui croît à un rythme supérieur à celui de la population non autochtone. Or, bien que les peuples autochtones représentent 5% de la population canadienne, ils ne contribuent qu'à hauteur de 2,4% au PIB total. Si les peuples autochtones pouvaient participer à l'économie au même rythme que les Canadiens non autochtones, leur contribution au PIB pourrait passer d'environ 55 milliards de dollars à bien plus de 100 milliards de dollars par an. Malgré ce potentiel, le Canada a largement échoué à investir dans les peuples autochtones et à réformer les structures coloniales à l'origine des inégalités. En dépit de certaines avancées, comme la Loi sur la gestion financière des Premières Nations, qui offre aux communautés des outils pour renforcer leur économie, les progrès sont encore trop lents. Les Premières Nations font face à des obstacles économiques. Toute économie comporte deux volets, les avantages économiques et les institutions qui permettent de tirer parti de ces avantages. Certaines institutions réduisent les coûts des activités commerciales et encouragent l'investissement, tandis que d'autres font le contraire. Les investissements se dirigent naturellement vers les endroits qui offrent à la fois des avantages économiques et des coûts d'exploitation faibles. Au Canada, les droits de propriété bien établis réduisent les coûts d'exploitation des entreprises et favorisent leur financement. Un régime fiscal efficace assure la prévisibilité et permet au gouvernement d'offrir des services. Les infrastructures adaptées aux besoins des entreprises réduisent les coûts logistiques. Toutes ces institutions contribuent au développement économique du Canada. En revanche, les communautés des Premières Nations sont limitées par les institutions canadiennes. La loi sur les Indiens limite l'autorité des Premières Nations sur leurs propres affaires, les excluant des mécanismes financiers traditionnels. Le flou juridique quant à la répartition des compétences entre les gouvernements fédéraux, provinciaux et autochtones et la faiblesse des droits de propriété découragent les investissements commerciaux. En raison de leur pouvoir limité, notamment sur le plan financier, les gouvernements des Premières Nations ne peuvent offrir des services conformes aux normes nationales et doivent compter sur d'autres gouvernements. Ces problèmes sont aggravés par la nature fragmentée, insuffisante et culturellement inadaptée des systèmes de soutien fédéraux. Les Premières Nations ont des avantages économiques et un défi entrepreneurial, mais elles sont confrontées à des obstacles économiques injustes, tels que des infrastructures inadéquates, un accès limité au capital et des obstacles administratifs. Il est essentiel d'investir dans les économies autochtones. En 1997, la Banque royale du Canada prédisait que le fait de ne pas investir dans les peuples autochtones creuserait le fossé socio-économique. Comme prévu, c'est ce qui s'est produit. Le Canada a toujours choisi de gérer la pauvreté plutôt que d'investir dans la croissance. Alors que l'aide financière aux peuples autochtones a plus que doublé au cours de la dernière décennie, cela n'a abouti qu'à une modeste amélioration du niveau de vie. Le projet Feuille de route, une initiative nationale menée par le Conseil de gestion financière des Premières Nations et d'autres organisations autochtones, propose une voie vers la réconciliation économique. Investir dans l'économie autochtone signifie soutenir la formation des Autochtones, donner accès au capital aux organisations autochtones et réformer les institutions qui continuent d'imposer des obstacles systémiques. L'éducation est un des moyens les plus efficaces de réduire la pauvreté, d'améliorer la santé et de stimuler le développement économique. Le gouvernement fédéral devrait donc soutenir des programmes de formation conçus pour répondre aux besoins des peuples autochtones. L'apprentissage en ligne pourrait aider les communautés isolées à atteindre leurs objectifs éducatifs, mais son succès dépend d'investissements importants dans l'accès à Internet haut débit qui fait encore défaut dans de nombreuses régions. Les organisations autochtones sont les mieux placées pour comprendre et répondre aux besoins locaux en matière de formation. C'est pourquoi le contrôle des transferts de revenus et la conception des programmes par les Autochtones doivent être au cœur de tout investissement futur dans l'éducation. Pour ce faire, le gouvernement fédéral devrait établir des partenariats avec les établissements d'enseignement autochtones afin de définir des objectifs et des valeurs en commun. Financer et soutenir la croissance autochtone. Les peuples autochtones créent 9 fois plus d'entreprises que la moyenne canadienne, mais ne reçoivent que 0,2% du crédit disponible. La plupart des entreprises autochtones sont de petite taille et ne peuvent croître sans option de financement viable. Pourtant, les entrepreneurs et les gouvernements autochtones ont du mal à obtenir des prêts et du soutien financier. À l'échelle internationale, les banques de développement ont été utilisées pour combler les lacunes en matière de crédit lorsque le secteur privé n'était pas en mesure de répondre aux besoins des économies émergentes. Au Canada, le Conseil de gestion financière des Premières Nations et d'autres organisations autochtones réclament une solution similaire, la création d'une organisation financière de développement autochtone. En accordant des prêts au gouvernement et aux entreprises autochtones, cette organisation financière pourrait combler le fossé entre les marchés financiers et l'économie autochtone. Si les investissements dans le renforcement des capacités et le financement du développement sont des besoins urgents, seul le démantèlement des barrières économiques et un meilleur accès à des institutions efficaces peuvent garantir le développement des peuples autochtones. Des lois telles que la Loi sur la gestion financière des Premières Nations et la Loi sur l'accord cadre relatif à la gestion des terres des Premières Nations soutiennent les économies autochtones par le biais de la fiscalité, de la budgétisation, des codes fonciers et des lois financières. Elles offrent une voie entre la loi sur les Indiens et l'autonomie gouvernementale sans devoir attendre la fin de longues négociations. Plus fort ensemble. L'avenir économique du Canada restera incertain si l'on continue de privilégier des solutions à court terme tout en ignorant le potentiel de croissance de l'économie autochtone. Il ne suffit plus d'améliorer le statu quo. Le gouvernement fédéral doit soutenir les initiatives menées par les Autochtones, comme le projet Feuille de route, afin de favoriser une croissance et une prospérité partagées par les peuples autochtones et tous les Canadiens. Des investissements sont nécessaires pour réduire les écarts en matière d'emploi et de revenus grâce à de nouvelles mesures de soutien aux capacités, à l'accès au capital et à la réforme institutionnelle. C'était « L'économie canadienne fait face à des défis majeurs et les peuples autochtones offrent des solutions. » Un texte de Mylène Olila et Hugo Asselin, paru le 29 juillet 2025 dans « La conversation ».
Cet été, laissez les jeunes jouer librement. » Un texte de Régent Bergeron, paru le 24 juin 2025 dans La Presse. La meilleure façon de développer les compétences des jeunes est bien simple. Donnons-leur la chance de s'adonner à des jeux libres et risqués, sans supervision constante, croit Régent Bergeron, philosophe, auteur de « Je veux être un esclave » 2016, de « L'école amnésique » ou « Les enfants de Rousseau » 2018, et de « Homère, la vie et rien d'autre » 2022. Si en 2025, mes parents pouvaient élever leurs enfants de la même manière qu'ils nous ont élevés à l'époque, il y a fort à parier qu'ils se retrouveraient en prison et que mon frère, mes 5 sœurs et moi serions placés en famille d'accueil par la DPJ. Mais qu'est-ce que la bonne société aurait à leur reprocher? La réponse est simple. De nous avoir laissé jouer dehors sans surveillance ni encadrement. Lorsque nous étions jeunes, moi et mes amis de la rue des Aublats à Chicoutimi pouvions acheter des pétards à mèche au dépanneur du coin, ce qui est aujourd'hui impossible. L'été, on allait dans le bois, hachette à la main, pour se construire un fort à l'aide de grandes branches de sapin que nous coupions en grimpant aux arbres. Et puis, quel bonheur c'était pour nous de suivre le cours de la rivière aux rats en sautant de pierre en pierre, en tentant de ne pas perdre l'équilibre. Eh oui, il nous arrivait également de jouer avec des allumettes pour démarrer un feu de camp ou pour nous livrer à différentes expériences que je n'ose vous raconter ici. Bien que certains aient perdu une partie de leurs sourcils sous l'effet d'une flamme trop vive, à la manière de petits Prométhée, nous parvenions toutefois à apprivoiser le feu. Et lors de la récréation à l'école, on se chamaillait, on courait, on jouait au ballon prisonnier, au risque de le recevoir à l'occasion en plein visage. Et puis l'hiver, on se construisait des igloos et on se livrait à des guerres de balles de neige, quitte à parfois saigner du nez. En fait, il ne se passait pas une semaine sans qu'on revienne à la maison avec quelques égratignures, coupures ou ecchymoses de toutes sortes. Jeux dangereux et jeux risqués. Pour la société aseptisée et hyper protectrice dans laquelle grandissent les enfants aujourd'hui, on devine que la plupart des activités ludiques, énumérées plus haut, seraient interdites ou fortement critiquées. Pensez que dans certaines écoles, il est maintenant interdit aux élèves de courir dans la cour de récréation. Imaginez pour le reste. Dans une société où jeu dangereux est trop souvent confondu avec jeu risqué, deux possibilités s'offrent ainsi aux jeunes. Soit ils participent à une foule d'activités où ils seront encadrés, dirigés, surveillés, réprimandés, coachés d'une manière rigoureuse par des adultes dans le cadre de plages horaires rigides, soit ils décident plutôt de s'isoler afin de passer la majeure partie de leur temps libre à consulter leur téléphone intelligent, là où les jeunes sont pourtant menacés d'une foule de dangers pas mal plus pernicieux que ceux qui pourraient découler du jeu libre et risqué. Comme le souligne Jonathan Haidt dans son essai « Génération anxieuse », pour que les enfants puissent apprendre à ne pas se blesser, ils doivent se retrouver dans des situations où cela est possible. Il en va ainsi d'une foule de compétences que les jeunes peuvent développer si on leur donne la chance de s'adonner à des jeux libres et risqués. Relever des défis, découvrir et tester leurs limites, développer leur autonomie, surmonter des peurs infantiles, gérer leurs émotions et leurs frustrations, stimuler leur imagination en inventant leurs propres jeux, établir des règles et apprendre à les respecter, développer leur esprit sportif et le sens de la coopération, etc. La Société canadienne de pédiatrie a d'ailleurs produit un document en 2014 dans lequel elle précise que le jeu risqué, qu'elle présente comme des formes passionnantes et stimulantes de jeu libre, dont l'issue est incertaine et qui comporte une possibilité de blessure physique, est essentielle pour le développement de l'enfant, autant pour sa santé physique que mentale et sociale. Les parents hélicoptères, ou ceux qui agissent comme des drones à l'endroit de leur progéniture, afin de les suivre à la trace et les téléguider jusque dans leurs moindres actions, nuisent au développement de ces jeunes et participent, sans s'en rendre compte, à ce mouvement de surprotection parentale qui s'est installé dans nos sociétés occidentales à partir des années 1980-1990, comme le souligne Jonathan Haid. Résultat de ce précautionnisme exacerbé? Des jeunes adultes de plus en plus fragiles, craintifs, immatures, démotivés et angoissés, qui voient la vie comme une montagne, celle que le monde des adultes leur a interdit de gravir lorsqu'ils étaient jeunes, de peur qu'ils se blessent. C'est une bonne chose que le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, ait interdit le téléphone intelligent dans les écoles pour la prochaine rentrée scolaire. Toutefois, ce serait encore mieux si, dès cet été, les parents du Québec encourageaient leurs enfants à mettre le nez dehors, non pas pour surfer sur le net, mais pour s'amuser, sauter, grimper, courir ensemble en toute liberté. Et ce, sans l'omniprésence et l'encadrement des adultes. En acquérant ainsi la confiance de leurs parents, cela leur permettrait de construire la leur. C'était, cet été, laisser les jeunes jouer librement. Un texte de Régent Bergeron, paru le 24 juin 2025 dans La Presse.
Des rivières qui retrouvent leur liberté, un méandre à la fois, un texte de Daphné Cameron, paru le 30 juin 2025 dans La Presse. Saint-Robert. Des lignes minces, bleues et droites. Il faut sortir une carte pour constater que bien des rivières agricoles ne suivent plus leur tracé naturel. En Montérégie, un quatuor formé d'agriculteurs et de chercheurs travaille à redonner à un cours d'eau son espace de liberté avec le projet « Un méandre à la fois ». Tout au fond de la terre de la ferme parentale coule la rivière Pot-au-Beurre. En 1983, le chenal sinueux a été redressé, lui donnant davantage l'allure d'un canal. Trois méandres ont été recouverts d'un remblai. Des années 1930 aux années 1980, d'innombrables rivières agricoles ont connu le même sort, souvent avec la bénédiction du gouvernement. Ces tracés plus droits ont simplifié les travaux aux champs au détriment de la biodiversité qui s'épanouit davantage dans les creux et les courbes. Jean-Philippe Marchand a passé les 8 dernières années à étudier la question dans le cadre de son doctorat en géographie à l'Université Concordia. Après avoir consulté des photos historiques, il est allé cogner à la porte des producteurs Judith Allard et Denis Parent avec un projet inédit au Québec, étudier comment restaurer leur tronçon de 280 mètres de la Pot au beurre pour rétablir la connexion avec les anciens méandres en forme de S. C'est notre plus vieux, lance Judith Allard à la blague, à propos des liens que le couple a tissés avec le chercheur à travers les années. La Pot au beurre est une rivière importante, car elle fait partie du bassin versant de la biosphère du lac Saint-Pierre, reconnue par l'UNESCO comme une réserve mondiale de biodiversité. On mise sur les processus naturels qui sont ici, explique Jean-Philippe Marchand. Pour que la rivière recommence à serpenter, il fallait d'abord convaincre les producteurs d'abandonner des espaces cultivés afin de restaurer une grande plaine alluviale. En 2022, environ un hectare a été retiré pour ce projet de restauration passive. Le principe de restauration par les processus, c'est de faire un bon diagnostic de ces processus-là, puis de reconnaître les contraintes, comme un ponceau trop réduit, de l'enrochement ou des remblais, de les retirer, puis de laisser faire la nature. Parce que finalement, on est sûr que la nature, à terme, va recréer les formes dont elle a besoin, ajoute le chercheur de 39 ans. En septembre 2024, ils ont remplacé une zone de traverse dont le ponceau circulaire avait été jugé trop étroit. Ça jouait le rôle d'un goulot d'étranglement. Au printemps, l'eau refoulait en amont. C'était un espace figé. Il n'y avait plus de dynamisme dans le cours d'eau, illustre M. Marchand. Aujourd'hui, le cylindre du ponceau est 4 fois plus grand. Au printemps, là, ça coule. Donc là, les processus peuvent se rétablir, se réjouit-il. Lorsque le débit d'eau augmente, les plus fortes vitesses favorisent l'érosion et les plus grandes profondeurs d'eau, l'inondation. Ces deux phénomènes naturels sont, dans ce cas, bénéfiques pour la biodiversité. L'eau dans les méandres peut y dissiper son énergie. Dans les courbes, elle y est plus calme. Tout ça, c'est une mosaïque d'habitat, explique-t-il. Aujourd'hui, la zone de retrait de culture est devenue une prairie traversée par un ruisseau qui ondule. Des oiseaux champêtres, des pollinisateurs et des grenouilles y ont élu domicile. Dédommager les producteurs. Le projet de recherche est devenu un projet pilote financé par le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs du Québec. Dans les basses terres du Saint-Laurent, en nature, l'état qu'on appelle d'équilibre des cours d'eau, c'est les méandres, explique la directrice de thèse de M. Marchand, la professeure Pascale Biron. Les chercheurs louent un hectare de champ en échange d'une somme d'environ 2 300 $ par année, un montant équivalent à la perte de revenus de la ferme. C'est une somme équitable. On ne fera pas d'argent avec ça, estime Denis Parent, agriculteur de 5e génération, qui cultive du foin, du maïs et du soya sur la terre de ses ancêtres. Mais on est fier de faire partie de ces solutions-là. Les agriculteurs, on a creusé des fossés, on a drainé, on a nivelé, et les terres sont productives comme jamais. Ça fait longtemps que je suis en agriculture. Je vois la différence. C'est un gros point positif. Sauf que c'est un petit peu au détriment des cours d'eau, de la nature. Denis Parent avait 17 ans lorsque le cours d'eau derrière la ferme a été redressé. Recreuser les méandres d'origine aurait coûté environ 200 000 $. Et le bassin versant a changé depuis 40 ans. On est bien mieux de dédommager les producteurs pour qu'ils laissent de l'espace que de payer une machine qui rentre dans une rivière si la nature le fait toute seule, souligne Pascal Biron. Des gains écologiques. Des relevés de la faune et de la flore ont été réalisés sur le lieu restauré et un site témoin en amont. Ce qu'on a vu, c'est vraiment une différence marquée au niveau des insectes, explique Jean-Philippe Marchand. Les populations d'araignées, une espèce utilisée pour témoigner de la santé des écosystèmes d'eau douce, étaient beaucoup plus élevées sur le site restauré. Même chose pour les oiseaux champêtres, comme le goglu des prés, qui mange les insectes ravageurs qui nuisent aux cultures. Quant à la flore, on voit un retour, un accroissement, disons, très progressif des espèces de milieux humides, dit M. Marchand. La zone élargie sert aussi de zone tampon pour retenir l'écoulement d'engrais et de pesticides. On ne réalise pas toujours les gestes qui ont été posés dans le passé, ce que ça donne comme négatif. C'est lorsque l'on retrouve le positif qu'on se dit « Eh, on l'avait perdu », remarque Judith Allard. La suite. Les chercheurs aimeraient maintenant poursuivre leur travail en aménageant un bassin de rétention près d'une sortie de drain agricole, là où se trouvait autrefois un méandre. Si le projet va de l'avant, le bassin deviendra un milieu humide, mais aussi une zone où l'eau sera filtrée à travers les sédiments. La rivière Pot-au-Beurre est un tributaire de la rivière Yamaska, considérée comme l'une des plus polluées au Québec. On a tendance à sous-estimer l'impact de ces petits tributaires, le cheveu dans un bassin versant. Mais 80 à 85 de la longueur des cours d'eau dans un bassin, c'est ça. Ils sont très, très petits en largeur, mais ils couvrent des distances énormes, explique la professeure Biron. Souvent, on se concentre juste sur les grosses rivières, mais on oublie le travail qui peut être fait en amont. Puis, quand on travaille sur les petits cours d'eau, on voit les résultats beaucoup plus rapidement. C'était « Des rivières qui retrouvent leur liberté, un méandre à la fois », un texte de Daphné Cameron, paru le 30 juin 2025 dans la presse.